Le trash streaming. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ah, c'est genre filmer en live des trucs hyper choquants? Quand il se passe des trucs choquants sur des streams, des choses comme ça? Ok.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous accueillir en public cet après-midi en direct du studio 104 de Radio France. Zoom Zoom Zen spécial santé mentale aujourd'hui dans le cadre de la journée santé mentale. Des solutions existent sur Inter. Alors des solutions existent, moi je dis peut-être, mais dans l'équipe de Zoom Zoom, on les attend toujours. Prenons au hasard Quentin Lhuy, dont le directeur des programmes de l'époque, quand il me l'a refourgué, s'était bien gardé de me dire qu'il bossait sur France Bleu le matin, mais qu'il était soigné en hôpital de jour à Sainte-Anne l'après-midi. Hôpital psychiatrique où il devait être contenu physiquement, sans quoi il agressait les patientes en hurlant...
La bouillard.
Trois ans plus tard, grâce à un traitement lourd administré quotidiennement par notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui le gave de pilules avec un grand entonnoir, Quentin va mieux. Mais le mal dont il est atteint est hélas incurable, puisqu'il s'agit en effet d'une version extrême d'un trouble dissociatif de l'identité, Quentin étant persuadé d'être plusieurs personnes à la fois, la moitié de ces personnes étant des chanteurs décédés ou en voie de. Vous parlez avec lui et soudain...
À ma soir, contre ma, 5 minutes avec Noche. Écoutez la Marianoche.
Qui sera-t-il aujourd'hui? Renaud, Eddie Mitchell, Joe Dassin, Claude Nougaro ou bien Dave?
Nina, rappelle-toi.
Oh putain.
Que je ne suis rien sans toi.
Alors de grâce.
Vanina, si tu m'oublies.
Stop! Si les solutions existent, envoyez-les nous vite. On tiendra pas une saison de plus comme ça. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Mickaël Stora.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Mickaël. Vous êtes psychologue et psychanalyste spécialiste des mondes virtuels. On vous avait reçu il y a quelques mois pour nous parler du stalking. Cet après-midi, à l'occasion de cette journée spéciale santé mentale sur Inter, et alors qu'on a encore évidemment en tête le drame de Jean Portmanov, on va discuter d'un autre problème de société avec vous, le trash streaming, cette manière malsaine de consommer des contenus violents ou simplement choquants sur Internet. Vous allez nous expliquer pourquoi ce type de vidéo fascine autant de personnes et quels sont les mécanismes psychiques qui nous poussent à regarder ce genre d'image. Parce qu'à une plus ou moindre échelle, on est tous un peu concernés par le phénomène. Juste le temps de vous présenter ma fine équipe. Bon alors, Quentin Lhuy, vous le connaissez, on ne va pas faire semblant de se réfugier derrière le secret médical, vous le suivez depuis plusieurs années maintenant. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour le 104.
À vos côtés, Mickaël Stora, elle n'a jamais regardé d'image extrême sur le net. C'est une jeune femme pure, réservée, presque une sainte. En revanche, et c'est étrange parce que c'est la même adresse IP, une certaine Carole Buisson est une grosse consommatrice de vidéos hardcore assez extrêmes. Carole Buisson qui a d'ailleurs été bannie du site de rencontre Droite au cœur pour photos de profil non conformes à la politique de modération de la plateforme. Peut-être le latex, peut-être aussi les pinces à urètre.
Mais
dommage,
ça
dommage. Sa bio...
Mathieu, en public, oh là là.
Peut-être même avec des enfants. Dommage, sa bio donnait envie, je cite...
Je porte la culotte, c'est moi qui pilote.
Manon, ça vous résume bien.
J'aime beaucoup cette punchline.
Mickaël Stora, on va se pencher sur ce phénomène qui semble prendre de l'ampleur, le trash streaming. Quand on regarde un live en encourageant des actions violentes ou extrêmes, est-ce que ce trash streaming nous a fait entrer dans l'ère d'un voyeurisme malsain à grande échelle, finalement?
Oui, alors d'abord, le voyeurisme est-il malsain?
Ah.
Oui, c'est une question. Ah. Vous êtes voyeur en tant que journaliste, quelque part.
Je ne suis pas trop journaliste, mais...
Mais vous sublimez ce voyeurisme en essayant de comprendre les choses.
Ah, j'aime ça, oui.
Et oui. Maintenant, oui, nous sommes dans une société d'images qui, depuis la télévision et en effet avec Internet, est devenue de manière... complètement, je dirais, planétaire, et d'une certaine manière, on voit que les contenus malsains, cruels ou autres, surtout créent énormément d'engagement, parce qu'ils ont une forte dose émotionnelle, et donc les gens vont regarder cela, et les plateformes l'ont bien compris.
Et donc les plateformes, l'algorithme a tendance à nous recommander ce genre d'image parce que ça crée de l'engagement. C'est un cercle vicieux, en fait.
C'est un cercle vicieux et qui rapporte beaucoup d'argent.
Lui, il a connu l'ancêtre du trash streaming, la bonne vieille Bitocirage. Incontournable du service militaire pour plusieurs générations de Français, ce bizutage potache, s'il n'était pas sans risque pour la tribu virile, avait le mérite de n'être ni filmé, ni encore moins commenté en live par des milliers de streamers. Ce qui se passe à la caserne reste à la caserne, disait Cyril, à chaque nouvelle recrue tentée de porter plainte. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Alors racontez-nous Cyril, ce trash streaming, si j'arrive à le dire correctement, d'où ça sort?
Eh bien imaginez un type filmé en direct chez lui, dans la rue, n'importe où en fait. Ce type est soumis à des défis dangereux, il se fait insulter, on se moque de lui, on l'humilie. Et plus il en prend plein la gueule, plus le compteur de gens qui regardent progresse. Et plus la cagnotte grossit, car oui, le public paye pour participer à ce show. Un spectacle qui n'est ni une performance de rue, ni une émission scénarisée, c'est du trash streaming. Si vous avez vu le premier épisode de la dernière saison de Black Mirror, alors vous savez de quoi je parle. Et il y a plusieurs origines à ce phénomène. En Russie et en Pologne, on parle de pato streaming, quand des streamers font des actions dangereuses en direct sur Internet pour récolter des dons. Alors ça a marché, ça a permis de récolter des fonds, mais ça a aussi attiré l'attention des autorités, au point que certains pays ont interdit ce genre de spectacle.
Mais si on remonte un peu plus loin, avant ces streamers, il y a eu une émission de télé.
L'émission américaine Jackass, c'est en l'an 2000 qu'elle apparaît sur MTV et c'est un phénomène immédiatement. Il y aura 3 saisons de Jackass qui va donc faire des émules sur Internet. Jusqu'au moment où ce qui était un spectacle fait une irruption ultra-violente dans la vraie vie. On l'a entendu, on l'a su avec la mort de Jean Pomanov, Raphaël Graven de son vrai nom. Une mort vue en direct sur la plateforme Kick. Le trash streaming, c'est l'histoire d'un glissement. Du jeu vidéo et des lives conversationnels au spectacle de l'extrême en direct. C'est aussi celui d'un public qui ne se contente plus de regarder mais qui devient un acteur en payant. Alors, d'où ça sort le trash streaming ? Eh bien de là, et c'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Michael Stora, Cyril nous le rappelait, le trash streaming, ça ne date pas d'aujourd'hui. Jackass, c'était il y a 25 ans. Mais c'est en fait une lente dérive à laquelle on assiste aujourd'hui avec des personnes qui se font du mal sur Internet en étant plus ou moins consentantes. Il faut bien le dire, il y a une sorte de Jackass, c'est des professionnels quelque part. Là, maintenant, c'est un peu des amateurs qui jouent à se faire mal.
Oui, alors en même temps, bon, ce qui est vrai, c'est que l'histoire de Jean Pomanov est venue montrer, alors j'aimerais le rappeler, c'était, semble-t-il, un handicapé mental. Il était sous tutelle et au fond, il représentait, je dirais, pour beaucoup de personnes qui regardaient, il venait un petit peu, comment dire, finalement faire flamber quelque part le sadisme. Parce que c'est ça. Il faut bien comprendre, pour revenir au terme de voyeurisme, le voyeurisme, c'est une pulsion d'emprise dont le but est de réduire l'autre à une image, à un cliché. Et que donc, dès qu'on a affaire à quelqu'un qui est amoindri, qui est différent, il y a une sorte de peur et on va devoir la rejeter ou la sadiser. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance-là. Pourquoi est-ce que dans notre société, il y en a plus ? Puisque c'est un petit peu ça. C'est très compliqué comme question. Finalement, parce que derrière, on est peut-être dans une société où la question de l'idéal, de l'idéalisation de réussite, de beauté, etc., devient de plus en plus folle. Donc, il y aurait finalement aussi le fait que dès qu'on n'est pas à l'image de ce qu'il faudrait être, il faut écarter cette personne. Et on voit bien comment les plateformes elles-mêmes ont érigé justement ces idéaux-là dans quelque chose d'inatteignable. Et peut-être même pour ceux qui regardent.
Est-ce qu'on est forcément dérangé soi-même quand on regarde ce genre de stream, ou est-ce que, quelque part, et c'est ça qui est peut-être pervers, n'importe qui peut être tenté de suivre ce genre de live ultra-violent, ou en tout cas dégradant même pour l'individu ?
Oui, alors je pense que peut-être qu'il y a un mélange des deux. Hein. Je dirais qu'il y a un malaise, mais qui va créer d'une certaine manière une forme d'excitation. C'est peut-être là où se situe quelque chose qui serait entre le masochisme et le sadisme. Quelque chose qui n'est pas clair, une ligne un peu limite. Et finalement, moi j'ai tendance à penser que cette forme d'empathie nécessaire qu'on devrait avoir, cette forme d'hypocrisie sociale que l'on a qui fait qu'on ne va pas, même si vous vous vannez pas mal, mais bon, ça reste des blagues, l'humour est essentiel. Là, on n'est pas dans l'humour. Alors d'ailleurs, j'aimerais dire, pour moi, le début de tout ça, c'est quand même la télé-réalité. La télé-réalité, on ne se rend pas compte.
C'est du trash streaming,
pour vous ? Oui, pour moi, il y a une forme de trash streaming et Internet est devenu une forme d'Internet-réalité où les gens, justement, se retrouvent, surtout dans le streaming, à se retrouver à être des formes de cobayes, je dirais, où on peut baisser le pouce ou le lever.
Sadisme. Acte de cruauté gratuit, torture psychologique, jusqu'où iront les trash streamers sur Kick ? Une chose est sûre, moins loin que moi dans le Zoom Zoom Test. Un quiz qui va nous entraîner aujourd'hui à la découverte de ce que le live stream propose de pire, mais avant cela, une parenthèse pour rappeler que, bien utilisés par des personnes saines d'esprit, les live streams permettent d'exprimer ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, et aussi dans la femme. On citera notamment la chaîne Twitch de Manon, Pinceau Coquin, sur laquelle elle diffuse ses sessions de coloriage érotique, érotique. Mention spéciale à la session du 19 septembre consacrée au nu de Pedro Pascal. Citons aussi Fisk Fucking.
Mon meilleur stream.
Fisk Fucking, la chaîne Kick de Quentin qui propose des tutos d'optimisation fiscale entre deux chansons de Florent Pagny.
Sympa.
Quant à Cyril, notre rédacteur en chef filloniste, il se dévoile sur son stream Entre côtes, entre couilles, où il reçoit une personnalité pour parler anti-wokisme et bidoche. Mon préféré étant celui où un Gaspard Proust au bord des larmes évoque sa passion croisée pour Éric Ciotti et la saucisse de Morteau. Mais hélas, tous les live streams ne sont pas aussi intéressants que ceux que je viens de citer, loin de là. Certains, disons-le, sont même carrément cons. Direction tout d'abord une université où normalement on croise peu de cons, Cambridge, où de 1993 à 2001, des ingénieurs du labo informatique vont diffuser sans interruption un contenu bien particulier sur le site de l'université. D'après vous, que nous proposer ce précurseur des live streams? Un gros plan de la serrure des toilettes afin que chaque chercheur puisse savoir à tout moment qui était aux toilettes, ou si c'était occupé. Un gros plan de la cafetière du labo pour savoir à tout moment s'il restait du café.
Ah.
Ou un gros plan sur le couloir qui mène à la cantine pour savoir à tout moment s'il y avait la queue ou pas.
Mais, pardon.
Et vous êtes obligé de crier maintenant.
Jeter sur la réponse, ouais. C'est... Et ce serait très pratique à Radio France.
Bah, même la B, c'est pratique. Hein.
Mais, ouais, pour Gérald.
Oui, pour Gérald, le pauvre.
C'est une bonne réponse. Manon, c'est la réponse B. Effectivement, on aurait adoré la C à la maison de la radio, mais il s'agit bien de la B 1991 dans un labo informatique de Cambridge, équipé d'une seule machine Nespresso pour tous les chercheurs. Deux d'entre eux, les plus feignassous, qui en ont marre de se lever pour rien, décident d'installer une caméra pour savoir en temps réel quand l'appareil a été rempli ou pas par les autres. Ils créent un programme informatique permettant de transmettre les images. Ils inventent donc ainsi en même temps la webcam et le live stream, lequel va durer quand même 8 ans, le Trojan Room Coffee Pot est son nom. Mais restons dans les années 2000, on y est si bien. Le président Chirac sort enfin le pays de la boue gauchiste et le Hummer H2 est enfin disponible à la vente. C'est aussi en 2000 que Mitch Maddox, aka Dotcom Guy, va marquer l'histoire de la toile avec un défi filmé d'un an, qui consistait à ne prononcer aucun mot pendant un an, ne sortir sous aucun prétexte de chez lui pendant un an,
ah,
ou ne vivre qu'en commandant sur Internet pendant un an.
C'est sûr.
B, la B et C, du coup, ça marche.
Oh, Quentin, bravo. Oui, B et C, vous vous êtes repris, effectivement, ce qui n'est qu'un dimanche de gueule de bois ordinaire pour Manon.
Oh, oh. Ça va, personne m'a applaudi, moi. Bravo.
C'est normal.
C'est fou. Hein.
Mais tu gagnes tout le temps. Oui, et t'es méchante. Dans la...
Je suis la plus gentille, selon ChatGPT.
Ce pionnier du web a donc vécu dans sa maison de Dallas pendant un an sans sortir, achetant toute sa nourriture et ses produits de première nécessité en ligne. Visionnaire, il avait inventé le confinement. Un peu trop tôt malheureusement, car en 2013 il aurait pu tromper son ennui avec un live de dingue. Mettons le cap à présent pour la Norvège, patrie de ce qu'on appelle la Slow TV. Vous savez, ces chaînes qui diffusent des plans fixes de trucs apaisants comme la nature. Depuis la rentrée, France 3 diffuse par exemple un live stream intitulé Le Brame du Cerf, qui consiste à nous montrer en temps réel ce qui se passe dans la forêt de Rambouillet. Et ça marche. Eh bien, en 2013, les Norvégiens ont réussi à faire plus chiant que ça. Ils ont proposé pendant 9 heures la National Strickveld, qui est, comme vous le savez, car vous parlez norvégien, la nuit du canoë, toutes les étapes nécessaires à la construction d'un canoë pour découvrir les fjords. La nuit de la bûche, 12 heures de direct sur le bois de chauffage.
Pas sur...
Ou la nuit, non, la nuit du tricot, toutes les étapes filmées en continu de la tonte au pull fini.
C'est...
Mais j'ai envie de dire B, moi.
C.
Vous avez envie de,
si y a la nuit
vous
de
avez
la
envie de dire B et C.
Bien sûr.
Vous dites B et C.
Ouais.
Oh
mais Quentin, c'est votre jour.
Oh
10 heures.
C'est pas possible.
Pour une fois qu'on est en public, tu perds,
oui,
Manon.
Oui, super, vous faites gagner.
10 heures à regarder du tricot, ranimer Manon, 10 heures. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la chaîne NRK a diffusé ce live stream, a fait 25% de part de marché, soit 5 fois plus que TBT9 sur W9. Et, avis aux puristes, il y a bien eu également une nuit de la bûche. Quentin était même le parrain de cette soirée. Rapport à son surnom, pas à la musique des sept nains, me permettrait pas. La nuit de la bûche, encore une antithèse du trash streaming, puisque cette nuit-là, devant leur écran, 20% de la population norvégienne va communier, assistant captivé à un direct à toutes les étapes clés du chauffage au bois, de l'abattage de troncs au séchage et enfin à leur combustion dans une cheminée, une sorte de zoom zoom zen de la cheminée. Et pourtant, ce programme suscita polémique et débat, si j'ose dire enflammé, des internautes. Pour quelles raisons selon vous? Parce que des gens sont morts d'ennui devant ce programme. Il y a eu un gros
drôle,
débat pour savoir si l'écorce devait être tournée vers le haut ou vers le bas dans l'empilement des bûches. Ou gros débat pour savoir pourquoi un dénommé Pierre Courade, présenté comme un expert en tout, est venu donner son avis à la fin du programme alors que personne ne lui demandait rien.
B.
A et B, parce que potentiellement, il y a peut-être des gens qui sont morts.
Ça marche une fois, dire deux réponses. Bonne réponse de Manon. C'était seulement la B, effectivement, en Norvège. Bravo Manon, qui marque un petit point.
Merci.
Le point pour sauver l'honneur, quelque part.
J'en ai deux.
Voilà. En Norvège, donc, ils se prennent la tête sur le sens d'empilement du bois. Énorme succès de cette nuit de la bûche qui, espérons-le, ne donnera pas des idées à Quentin. Victoire exceptionnelle pour une fois en public. De Quentin, lui.
Oui. On a égalité, Mathieu.
Ça n'arrive jamais.
On a égalité.
Vous lui portez chance. Merci, Mickaël Stora, d'avoir été avec nous pour parler de ce phénomène glauque du trash streaming depuis le studio 104 de la Maison de la Radio. À suivre, on parle IA générative avec Luc Julia. Quentin nous embarquera dans la rue pour son micro-trottoir et la comtesse de Breuer a deux, trois trucs à nous dire de ce qu'elle pense des influenceurs qui vantent les mérites de l'Afghanistan. Tout ça, c'est après Aloe Black, I Need a Dollar sur Inter. L'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, Luc Julia, est avec nous cet après-midi pour son dernier livre, IA générative, pas créative, qui est sorti au Cherche Midi. Dans votre livre, Luc, vous avez un discours assez sévère vis-à-vis de ces IA génératives. Vous dites que ces IA racontent n'importe quoi et c'est normal. Elles ne cherchent pas à vous raconter la vérité, elles cherchent à vous donner une réponse. Est-ce qu'on peut développer un petit peu cette notion ?
En fait, elles essayent de vous faire plaisir. La première chose, c'est qu'elles vont être d'accord avec vous. Donc le problème, ça va être un problème de pertinence. Et donc, quand ces IA vous leur posent poser une question que vous avez envie d'avoir une réponse, elles vont vous donner la réponse dont vous avez envie. Donc là, quelque part, elles sont pertinentes, parce que c'est ce que vous vouliez. Oui. Et le truc, c'est que cette pertinence n'est pas forcément la vérité. Donc effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de réponses qui ne sont pas des réponses correctes de la vérité. On pourrait dire que ça va s'arranger avec le temps, parce qu'elles deviennent meilleures et meilleures. Mais la réalité, c'est que c'est de pire en pire.
Comment on explique ça?
Parce que ces IA, en fait, comme elles génèrent des choses qui sont pas très bonnes. Comme je disais tout à l'heure, on a pris globalement toutes les données. J'exagère un tout petit peu, mais on a tout pris. Mais il y a des données qui sont générées tous les jours. La météo, les machins, etc. Et l'IA génère elle-même des données tous les jours. Et ces données sont utilisées par la prochaine IA. Et donc le problème, c'est que si elle donne des données qui ne sont pas pertinentes, c'est de moins en moins pertinent. Donc ça a un peu de logique, en fait.
À l'ère des fake news, on comprend que l'IA ne devient pas omnisciente. Voilà.
Et donc il y a de plus en plus de fake news.
Mais c'est fou, parce que le système de l'algorithme aussi, c'est de nous conforter, c'est de nous renvoyer un peu les mêmes idées à chaque fois. Si l'intelligence artificielle, pareil, nous conforte, ne va pas nous chercher, on ne va pas évoluer dans le bon sens. Confronter ces idées, même avec la machine, ça pourrait être intéressant. Pourquoi on ne le fait pas?
Parce que c'est difficile à faire. Ouais. Parce que c'est très compliqué, en fait. La machine n'a pas de conscience, donc elle ne sait pas ce qu'est la vérité. Et donc, du coup, elle ne peut pas vous donner la vérité, elle ne sait pas ce que c'est. Donc, elle va vous donner quelque chose qui est proche du discours que vous avez vous-même, et puis elle va aller chercher dans sa base de données ce qui ressemble le plus à ce que vous avez vous raconté.
Sur la dimension créative, parce que c'est ça le cœur du livre, l'IA ne crée pas. Ouais. Il y a pourtant des musiques qui sont... elles sont générées, par IA. Et vous dites, l'IA pourra jamais être le prochain Mozart ou le prochain Beethoven.
Exactement. Donc ce qu'il faut comprendre, ce qui est super intéressant et intriguant et excitant, c'est que ces IA peuvent générer des choses complètement nouvelles. Mais les choses nouvelles qui sont générées, elles viennent d'où? Elles viennent du prompt. C'est parce que c'est vous
qui l'avez demandé.
Et donc, du coup, ce qui est intéressant, par exemple, Midjourney, de ce qui s'est passé en 2022, en juillet 2022, quand le gars a gagné son concours avec une image qui a été générée par Midjourney, en fait, il y a des centaines de prompts qui ont été nécessaires pour créer cette image, pour générer
Donc l'art devient le prompt, en fait. Donc,
exactement, c'est l'art du prompt, l'art du prompting. Et ça va être un catalyseur de créativité, parce que ça va me permettre d'exprimer beaucoup mieux... juste par la parole, et donc c'est magnifique parce que tout le monde peut maintenant le faire.
Tout le monde peut écrire une symphonie.
Voilà, je peux dire je veux ci, je veux ça. Bon, évidemment, il vaut mieux être déjà versé dans la musique pour faire un truc qui va ressembler à quelque chose.
Mais du coup, à quoi sert l'IA générative aujourd'hui? Vous dites par exemple qu'il vaut mieux utiliser Google aujourd'hui pour faire une recherche que ChatGPT.
Oui, pour certaines choses. Ça sert effectivement certainement à rien d'avoir ChatGPT pour une recherche, pour regarder la météo et des choses comme ça. Il y a des choses simples à faire avec les vieux outils, ne serait-ce que regarder par la fenêtre, c'est déjà pas mal aussi. Donc il faut comprendre que ces outils servent à quelque chose quand j'ai envie qu'ils m'aident à faire quelque chose de particulier. Par exemple, pour remettre en forme une phrase, pour traduire quelque chose, un paragraphe, ou des choses comme ça. Je vais pouvoir y mettre mon propre petit grain de sel, et surtout, je vais pouvoir décider si ça me plaît ou si ça me plaît pas.
Il est ce que les experts des algorithmes appellent une aberration du système. Car aucun motif clair ne se dessine, aucun profil client ne peut être établi à partir de ces requêtes Google. Goéland rigolo plus autisme, URSAF risque si on paye pas, point d'interrogation, ou encore mère de Mathieu Noël, âge. Rien n'a de sens, rien ne se recroise, il est une énigme pour l'IA. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, l'IA générative, ça inquiète, ça fascine?
Nous sommes à Paris, 8e arrondissement, je traverse le pont de l'Alma, je passe devant ces gens attablés qui prennent un allongé à 7€ chez Francis. Évidemment, j'en ai pris un aussi. Le serveur me dit que c'est le seul endroit où on met du pétrole dans le café. D'où son prix, je souris. À côté de moi, il y a Thibaut, la quarantaine, en costume. Il me confie être au chômage.
IA générative, c'est beaucoup de problèmes. Ça me fait pas peur, mais je vois que si c'est hors de contrôle, on peut avoir des surprises quand même. Ne plus savoir où est la vérité. Les fake news, moi, me font un peu peur, pour le coup.
Ce n'est pas tant l'IA générative qui l'effraie, mais les humains qui se servent de l'IA à mauvais escient et s'en servent pour faire par la machine ce qu'on fait nous-mêmes aujourd'hui. Et il a un exemple concret pour moi.
Par exemple, l'interview que vous faites là, c'est relativement long. Vous êtes venu physiquement, vous êtes sûr que vous avez une information fiable parce que vous êtes sur place. On peut faire ce qu'on fait là avec un micro, depuis son salon, on peut mettre des bruits de fond, on peut tout faire en faux. Ce que vous faites là, vous le faites encore en vrai. Il y a encore quelqu'un pour vous payer, peut-être que demain, il n'y aura plus.
C'est pas faux. Ah, on sera tous les deux au chômage.
Moi, je suis déjà.
Plus loin, au pied d'une statue, je regarde ce monsieur qui prend sur le vif des passants de rue avec son appareil photo. Il s'appelle Pierre. Qu'est-ce qu'il fabrique?
Je me promène et je prends des photos.
Qu'est-ce que vous preniez en photo, là?
Les gens qui regardent la statue.
IA générative.
J'appartiens pas à ce monde.
Ah, vous soufflez ?
Ah ouais, non, là, j'appartiens pas à ce monde. On a déjà tellement de mal avec la réalité, alors à quoi bon ?
Je le sens presque triste et remonté contre la machine. Je lui demande si dans tout ça, il a quand même pris le temps d'essayer ChatGPT, par exemple.
Ouais, je dois le confier.
Ah, vous avez essayé ?
Oh putain, j'ai essayé hier. Oh là là, c'est terriblement efficace.
Ça vous fait chier de le dire ?
Ah bah ouais, ça me fait chier que taper trois trucs dans une machine et c'est beaucoup plus efficace que moi, ça me fait chier.
Après, Pierre me rappelle que ça reste qu'un outil, une évolution.
Enfin, ça c'est beaucoup plus efficace que la peinture, hein. Je montre un appareil photo parce que comme vous êtes à la radio, je pense que les peintres, ça les a fait chier quand on a sorti ça, hein.
C'est vrai.
Moi je fais de la photo, je saisis le réel et de voir qu'on fabrique des images comme ça et qu'on arrive à autant tromper notre perception.
Est-ce que ça a renforcé votre scepticisme ?
Bah, on va rentrer dans une nouvelle phase iconoclaste. La défiance vis-à-vis des images, comme les Byzantins. Bah, assis dans un fauteuil, on peut arriver, paf, on fabrique des images comme ça. Moi, je me sens plus appartenir à ce monde, en fait. Je me sens Cro-Magnon dans une grotte qui fait un dessin.
L'âge de Pierre, finalement. Je demande à cette passante si dans ce monde où les images se génèrent facilement, elle fait désormais attention à ce qu'elle reçoit.
L'IA générative. Bah, j'ai envie de répondre oui. Mais en vrai, enfin oui, j'essaierai d'y faire attention, mais quand on est sur les réseaux, quand on scrolle, en fait, on regarde les trucs 3 secondes et on fait pas attention plus que ça. Donc je peux pas dire qu'à chaque instant de ma vie, je vais faire hyper attention à tout ce que je vois, c'est pas possible. En fait.
Ma dernière rencontre, c'est Adrien. Il est assis à une terrasse parisienne, beau gosse, la veste couleur sable, les chaussures bien choisies, les cheveux dans le vent. Il me demande ce que je peux bien fabriquer avec des gens, alors je lui fais lire...
IA générative.
Bon, t'as 31 ans ?
Oui, je me sers de l'IA au quotidien.
Comment ?
Je m'en sers pour challenger mes idées, pour des textes.
Ah ouais, tu t'en sers vraiment ?
Ah ouais, pour des textes aussi. Alors figure-toi, là, tu vois, j'ai une anecdote.
Ah, alors est-ce qu'on veut l'anecdote d'Adrien ? Oh oui, Quentin, les gens que tu arrêtes par hasard sont tellement fabuleux. N'en faites pas trop, Manon.
Oh, allez, on écoute. Belle imitation.
Je rencontre une fille par hasard, on discute un peu. Rapidement, moi, je veux son numéro pour lui proposer un date ou pour proposer de se revoir.
Dans la rue, tu l'arrêtais
ouais,
comme
ouais,
ça
ouais, bah ici, tu sais, ici, c'est tout le monde se parle et okay, tout, okay. Et voilà, j'adore parler aux gens. Et elle me dit, on va jouer à un jeu, je vais te donner tout mon numéro sauf les deux derniers chiffres. Et tu devineras, et si t'arrives à le deviner, bah on se verra.
Suspense, qu'est-ce qu'il a fait, moi, Adrien ?
J'ai demandé à ChatGPT... Mais bon, ça va, c'est les deux derniers chiffres, donc potentiellement j'ai 100 numéros en fait à tester un par un. Je lui ai demandé de me générer les 100 liens de création de contact WhatsApp qui étaient liés en fait pour chacun des numéros. Comme ça, je vais pas déranger les gens. Je vais juste, quand je vais ajouter ces numéros sur WhatsApp, regarder la photo de profil qui est publique. Et donc c'était la 72e personne. J'ai mis 20 minutes à le faire. J'ai eu un date en 20 minutes. C'est pas exceptionnel.
Oh, merci ChatGPT. Merci. Quelle belle époque.
Mais bon, c'est pas ChatGPT qui va trouver le magnifique date que je vais lui proposer.
Oh, bah encore heureux. Comme quoi entre
un peu psycho quand même. Mais oui.
on n'est pas sûr de cet exemple. Mais bon, entre la peur des fake news et la méfiance qui grandit autour de l'intelligence artificielle, finalement, elle ne génère pas seulement des images, elle fabrique aussi des rendez-vous.
La parole est à Marie Debreuer. Marie, vous êtes influenceuse et on vous a récemment proposé de faire un tour en Afghanistan avec des talibans.
Mais ouais, mais je me suis fait retoquer à l'aéroport de Kaboul. Oh là là, j'ai pas pu visiter avec les talibans et tout, je suis deg. J'adore la barbe chez les mecs en plus. Enfin, j'ai eu toute une discussion de 1000 ans avec mon amoureux, voilà, pour faire un peu couple libre. On s'était dit, ce qui se passe à Kaboul, reste à Kaboul. Mais non, finalement ils ont pas voulu de moi pour faire la promo de l'Afghanistan sur Insta, leur explication, j'aurais trop de nibards. Et ils ne veulent sur leur territoire rien qui ressemble à un porc. Okay. J'ai trouvé ça pas hyper cool, mais bon. En même temps, je suis con parce que la veille du départ, j'ai fait un karaoké avec des copines. Bon, bah, j'ai chanté tout le feat Renaud et Axel Red, Manhattan Kaboul. Les talibans ont dû tomber sur la vidéo, ça leur a pas plu, quoi. Petite fille afghane de l'autre côté de la terre. Bon. Mais même j'y peux rien si c'est ma chanson de karaoké, en fait. Ça me gave, moi, parce que en fait, j'ai pas d'a priori sur tout ce que taliban. Enfin, j'allais faire de la super promo. J'avais même pensé à un code de réduction moins 20% sur les voyages. L'Afghanistan, ça te va comme un Afghan 20 pour les moins 20%. Bon, bref, coup dur pour mon business d'influenceuse, hein, mais je vais remonter en selle. Je suis en liste d'attente pour faire un partenariat avec Boko Haram, donc croisez les doigts. Oh là là. Donc oui, l'Afghanistan veut relancer le tourisme qui bizarrement a peu la cote en ce moment. Voilà, les gens préfèrent la Corse, je comprends. Ils préfèrent les fusils 22 Lorifle au Kalachnikov. Mais écoutez, chacun sa petite arme préf, quoi, il n'y a pas de souci. C'est tout à fait un critère logique dans le choix des vacances, les armes à feu. Bon, du coup, les talibans, ils organisent des séjours VIP pour les influenceurs venus d'Europe et des États-Unis pour leur montrer que, voilà, c'est pas si mal comme destination, en fait. Et, alors, il n'y a pas énormément d'influenceurs qui y sont allés, mais il y a un Français, voilà, Thibaut. Thibaut, il a tenu à saluer, d'ailleurs, l'hospitalité des talibans. Et c'est vrai que quand on regarde les photos de l'influenceur avec ses copains Kalash à la main, bah, tu te dis, tiens, c'est vrai qu'ils ont l'air gentils. Voilà, ils ont l'œil tendre et en même temps, manquerait plus qu'ils mordent. C'est marrant parce qu'ils ont des armes dans les mains. Un shot à chaque fois que j'explique mes blagues. Un des gros points noirs quand même de ces petites vidéos vacances à Kaboul, c'est qu'ils mentionnent très peu le traitement des femmes en Afghanistan, hein, qui est un pays, je dirais, sévère. Voilà, on le rappelle qu'il est interdit de mettre sa tête à la fenêtre de sa maison, hein, quand on est une femme. Donc oui, c'est sévère, c'est le bon mot. Et en même temps, vraiment un truc de grosse pute de vouloir prendre l'air. C'est quoi la suite? Respirer. Sont folles les gonzesses, alors. Moi, ma loi préférée des talibans, c'est l'interdiction pour les femmes de chanter, même chez elles. Donc je peux te dire que le karaoké, tu peux te le foutre au cul. Non, je crois qu'il faut pas se foutre des trucs au cul. Pardon. Mais moi, j'ai une question, du coup, pour les talibans qui nous écoutent. Quelle est la règle concernant le sifflotement? Voilà, est-ce que siffloter est autorisé? Parce que si oui, je propose que non. Voilà, c'est très agaçant, les... Vous avez reconnu? C'est Manhattan Kaboul. Excellent. Et alors, sur la question du droit des femmes, notre influenceur français, Cocorico, a mis dans une story « Je n'ai pas dit que tout était parfait non plus ». Alors oui, c'est vrai, tu n'as pas dit que tout était parfait, mais je crois que tu as oublié de mettre le hashtag « collaboration commerciale ».
Merci beaucoup, Marie. Et merci surtout à Quentin de ne pas avoir chanté quand vous avez commencé à siffler Manhattan Kaboul.
Portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais.
Oui. Enfin, du haut compte,
non, mais merci de vous arrêter là. Merci Marie. À suivre, l'éditorialiste du Monde, Gilles Paris, vient nous dire s'il pense que la Palestine a bel et bien un avenir ou pas. Manon Mariani reviendra sur le droit pour les femmes d'ouvrir un compte bancaire. Et le formidable écrivain Alain Mabankou sera avec nous pour un Zoom Zoom Back consacré à 1965. On se retrouve après Enchantée Julia, balade.
Plus le temps de crier au secours.
Zoom Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter.
Bonjour Gilles Paris.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes journaliste spécialiste des relations internationales, éditorialiste au journal Le Monde. Vous avez été correspondant à Jérusalem de 2001 à 2006, chef du service international, puis correspondant à Washington de 2014 à 2021. On vous reçoit cet après-midi au lendemain de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et une dizaine d'autres pays à l'ONU. Donc, pour le livre que vous avez dirigé, La Palestine est-elle encore possible ? Un livre essentiel pour comprendre l'actu du moment. Il vient de sortir aux éditions de l'Aube. Gilles Paris, déjà, comment vous avez trouvé le discours d'Emmanuel Macron ?
Il était bien calibré pour parler à deux peuples. C'est un message à deux peuples. Pour tirer un peuple, peuple israélien, de l'illusion de la toute-puissance et pour redonner un peu d'espoir à un autre qui subit cette toute-puissance en voyant aucun horizon. Évidemment, c'est pas ça qui va faire bouger les lignes sur le terrain. Ça a évidemment pas mis la fin à ce qui se passe à Gaza. Néanmoins, il y a quand même un électrochoc parce qu'il y a eu une dynamique avec cette reconnaissance, une dynamique qui a été attestée par décision du Canada, du Royaume-Uni, de l'Australie et d'autres pays de taille plus modeste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 4 membres permanents du Conseil de sécurité sur 5 qui soutiennent cette reconnaissance de l'État palestinien. Il y a 3 membres du G7. Et puis, au sein de l'Union européenne, il y a maintenant une majorité de pays qui ont reconnu l'État de Palestine. Alors, ça met peut-être en route un mécanisme. En tout cas, si c'est un point de départ, c'est intéressant. Si c'est un point d'arrivée, c'est sûr que ça ne changera rien.
Gilles, est-ce que cette reconnaissance, tout le monde la salue, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu tardive ?
Elle est tardive si on regarde le nombre de pays qui ont déjà reconnu la Palestine. Il y a eu une première vague dans les années 90, principalement en Afrique et dans les pays de l'ex-Union soviétique. Mmh. Ça faisait suite à la proclamation d'indépendance par Yasser Arafat en 1988 au Conseil national palestinien d'Alger. Alors c'était une proclamation d'indépendance virtuelle, comme la reconnaissance de l'État de Palestine est virtuelle. Néanmoins, au fil des années, ce nombre de pays qui ont reconnu l'État de Palestine a augmenté et aujourd'hui, on a une très 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 forte majorité aux Nations Unies représentées qui soutiennent cette reconnaissance. Alors, la dernière vague de reconnaissance, c'est-à-dire les pays importants qu'on a déjà mentionnés, que ce soit Australie, Royaume-Uni, Canada, et puis la France, en fait, ça crée un effet de levier. Ces pays, en quelque sorte, ils se sont créés à eux-mêmes une obligation de résultat. C'est pas tout de dire « je reconnais l'État de Palestine », encore faut-il que cette solution des deux États dont il est la traduction se réalise, sinon ça ne rime à rien. C'est pour ça que pendant longtemps, Emmanuel Macron, comme beaucoup d'autres responsables, ne voulait pas s'engager sur ce terrain. Parce que c'était évidemment se créer cette obligation de résultat.
Ses détracteurs estiment qu'elle est malvenue, d'ailleurs, cette reconnaissance, et qu'elle donne une sorte de légitimité au Hamas et à la violence. Quel est votre point de vue là-dessus ?
Et cette reconnaissance, déclaration de reconnaissance de l'État de Palestine, a été précédée par un travail de conviction vis-à-vis de pas mal de pays européens, aussi de pays arabes, pour parvenir à une condamnation très ferme du Hamas et pour obtenir l'engagement, y compris de pays qui étaient relativement proches, la Turquie, le Qatar, que... une solution se fera évidemment sans le Hamas, que celui-ci sera mis à l'écart et démilitarisé. Donc c'est sur cette base-là que cette reconnaissance existe. Et c'est pour ça qu'on peut difficilement dire que c'est un cadeau offert au Hamas, d'autant que le Hamas ne s'est jamais inscrit dans la solution des deux États. La solution des deux États pose comme principe la légitimité d'Israël. Or, cette légitimité, il l'a toujours contestée.
Est-ce que les Palestiniens sont indifférents à cette reconnaissance ?
Ils n'y sont pas indifférents, simplement ils n'y croient plus. Ils voient ce qui se passe sous leurs yeux, et ce qui se passe sous leurs yeux, c'est l'effritement de la Cisjordanie qui est mitée de plus en plus par la progression des colonies. On a vu il y a quelques semaines la divulgation de ce projet, qui est un projet très ancien, qui a plusieurs décennies d'âge, qui est de séparer en deux la partie nord et la partie sud de la Cisjordanie par une continuité de colonies, reliant la partie orientale de Jérusalem, conquise par la force en 1967, jusqu'à la vallée du Jourdain. Donc c'est cette incrédulité qui découle du terrain.
Bonjour Alain Mabankou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Alain, vous êtes écrivain, lauréat du prix Renaudot en 2006 pour votre roman Mémoire de Porc-Épic. On vous doit aussi Petit Piment, Black Bazar ou encore Vert Cassé, qui fait partie des 100 livres les plus marquants du 21e siècle d'après Le Guardian. Et votre dernier roman, Ramsès de Paris, paru au Seuil, est un des grands succès de cette rentrée littéraire. Un livre qui parle d'exil, de racines et de diaspora africaine. Donc un livre qui fait écho à notre sujet du jour, Malcolm X, assassiné donc en 65. Mais en 65, une autre catégorie de la population luttait pour obtenir l'égalité en France, les femmes. Manon Mariani, vous revenez sur une première fois survenue donc cette année-là.
Il y a des femmes qui sont
très fortes, mais perdent leur féminité lorsque justement ils égalent trop les hommes.
On est en juillet 1965, à quelques jours d'un vote majeur à l'Assemblée nationale qui visiblement ne plaît pas à certains hommes de l'époque, mais qui va être une véritable révolution pour les femmes. Le 13 juillet, la loi qui les autorise à ouvrir un compte bancaire, à gérer leurs propres biens et à travailler sans l'autorisation de leur mari est votée. C'est fou de se dire que c'était il y a seulement 60 ans. Une émancipation historique et féministe, car jusque-là, une femme mariée était juridiquement considérée comme mineure vis-à-vis de son mari. Elle ne pouvait ni travailler, ni signer un contrat, ni ouvrir un compte bancaire sans avoir son autorisation écrite. Et pourtant, on est déjà dans une société où une femme sur trois travaille. La Seconde Guerre mondiale est loin, on est en plein dans les 30 Glorieuses, où les femmes participent activement au progrès économique du pays, mais toujours sous le joug de leur mari qui exerce un droit juridique sur elles. Pour les femmes de cette époque, c'est donc la libération.
C'est la chose la plus idéale qu'on puisse faire actuellement. Parce que je me suis mariée sous le régime de la communauté. Et ce que j'ai acquis, je ne peux pas en disposer parce que j'ai un mari, c'est un lion.
J'ai un mari, c'est un lion. Une phrase qui fait froid dans le dos. Imaginez ne pas pouvoir disposer de son argent alors qu'on bosse tous les jours pour subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. Ce fonctionnement répressif, conservateur et patriarcal est né dans le Code civil de 1804, adopté par Napoléon Bonaparte. C'est lui qui instaure le statut de mineur à la femme mariée. L'article 213 indique que le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance à son mari. On est donc au 19e siècle. Mais il va encore perdurer pendant plus de 161 ans. Pour connaître la première avancée majeure pour le droit des femmes, il a fallu attendre le 21 avril 1944. Les femmes obtiennent le droit de voter et de se présenter à une élection. Elles votent pour la première fois un an plus tard.
Les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices.
Le droit de vote des femmes a mis un coup de pied dans la fourmilière, mais c'est paradoxal, car elles prennent leur indépendance dans les urnes et pas dans leur propre foyer. Elles devront attendre encore 20 ans, et donc cette fameuse loi du 13 juillet qui va bouleverser la vie de millions de femmes françaises qui remettent déjà quand même en question ce modèle patriarcal. Écoutez comment réagit cette jeune lycéenne lorsque son professeur lui demande ce qu'est le bonheur.
Évidemment de me marier, mais quand même d'avoir une carrière et par là même d'obtenir une certaine liberté pour ne pas être sous la tutelle même de mon mari.
Et 1965 marque tout juste le début de leur émancipation aux yeux de la loi. Deux ans plus tard, la loi Neuwirth va légaliser la contraception. Cinq ans plus tard, la notion de chef de famille est supprimée du code civil. L'autorité devient conjointe entre mère et père. Sept ans plus tard, une loi marque l'adoption du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Bon, oui, les écarts qui persistent aujourd'hui, il y a encore du boulot. Et puis évidemment, dix ans plus tard, après des années de lutte, de manifestations, de cris du cœur et d'avortements clandestins, la loi Veil est promulguée. Les femmes peuvent maintenant disposer librement de leur corps.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame.
Les mots de Simone Veil à l'Assemblée nationale résonnent plus que jamais aujourd'hui, où l'avortement est en danger dans de nombreux pays, dont aux États-Unis. Plus globalement, les droits des femmes sont en danger. Dans un rapport publié l'an dernier, l'ONU indique qu'environ un quart des pays dans le monde ont signalé un recul du droit des femmes. Le combat n'est jamais fini.
Le combat n'est jamais fini. Merci Manon. Alain Mabankou, vous vivez aux États-Unis donc en 2025. Est-ce que le combat, il n'est pas déjà perdu parfois, avec le backlash actuel?
Je ne pense pas qu'il faille être pessimiste. Hein. Quand j'écoutais comment résumer le combat des femmes pour en arriver jusque-là, et que je pense que même les régimes matrimoniaux en France n'ont eu un petit liftage qu'en 1985. Hein. C'est là qu'on a commencé à reconnaître que nous avons les mêmes droits, etc. Aux États-Unis, nous sommes dans la même situation où il y a toujours cette sorte de domination masculine en permanence. Et cette domination masculine se reflète même dans le comportement des institutions politiques actuellement, où celui qui est à la tête de l'État n'a peut-être pas forcément l'idée des aspirations des femmes qui sont dans le pays.
Aujourd'hui, on vous a invité à la Mabankou pour parler de l'assassinat de Malcolm X, ses conséquences, mais on doit aussi parler des États-Unis aujourd'hui, à commencer par l'assassinat de Charlie Kirk, un meurtre évidemment insupportable, et pire encore, un meurtre qui permet à Trump d'attiser encore plus la haine entre deux Amériques, dont on a l'impression finalement qu'elles peuvent même plus se parler. Rassurez-nous, en Californie, les gens se parlent encore.
Non, en Californie,
c'est différent.
On se parle, puisque on est un État bizarre, puisque à la présidentielle, nous sommes démocrates, et puis quand il faut voter un gouverneur, parfois on est beaucoup plus républicain, d'où ils ont voté Ronald Reagan, ils ont voté Schwarzenegger, qui sont des républicains.
Quand on entend l'extrême droite, là, en ce moment, comparer le meurtre de Charlie Kirk à l'assassinat de Martin Luther King, vous, ça vous inspire quoi, à vous ?
Mais moi, j'aime pas trop quand on compare les assassinats. Les Rodney King et les autres ont été victimes pratiquement des atrocités policières. Les Martin Luther King ont été victimes de leur message d'humanisme. Je ne pense pas que le message qui s'est dispensé par le disparu Kirk avait quelque chose d'humanisme. Parce que si vous aimez le monde, si vous aimez l'humanisme, il est impossible de créer cette sorte de séparation tragique.
Est-ce que la liberté d'expression, on peut le dire, est en danger actuellement aux États-Unis ?
Mais en décapitant peut-être une des figures des émissions les plus populaires, ça donne aussi la température de l'eau. On sent que l'eau devient de plus en plus, peut-être va déborder dans ces sens. C'est un message qu'on envoie à l'ensemble de la presse en disant que où que vous soyez, qui que vous soyez, quelle que soit l'audience de l'émission que vous allez avoir, vous êtes toujours à la portée du MAGA. Voilà. Make America Great Again.
On entend quand même très peu les démocrates depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Barack Obama est quasiment invisible en ce moment. Vous êtes surpris, déçu que, voilà, qu'ils ne prennent pas plus position, qu'ils ne s'engagent pas plus contre ce que fait Donald Trump, par exemple ?
Moi, j'ai toujours reproché aux démocrates leur assurance politique. Ils ont toujours tendance à dire non, on sait que l'Amérique choisira le côté du droit, le côté. Et donc, ça donne une certaine paresse aux électeurs et aux électrices. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit vous êtes gagnant, regardez même la physionomie de la plupart de ces élections. Les sondages donnent toujours les démocrates là c'est gagné, là c'est gagné. Et le jour J, vous voyez le tableau devenir rouge, 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 républicain jusqu'au bout. Les démocrates, actuellement, je pense qu'ils sont un peu coupés de la base. Ils sont un peu désemparés parce que, eh bien, probablement qu'il leur manque cet homme fort ou cette femme forte qui va amener leur combat puisqu'ils ont raté celui de Kamala Harris. Vous avez vu tout ce qu'il fallait. On a faibli la candidate ou le candidat. Et quand il arrive en face de Donald Trump qui sait désormais comment jouer le piano de la politique américaine, eh bien, il les évince. Donc... C'est dans ce sens-là que je pense que la situation pour les démocrates est délicate et c'est pas sûr qu'ils gagneront prochainement.
On dit souvent que la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Et lui, le matin, il mange des céréales. Guigui Pop s'est penché sur cette histoire de trash streaming. Bonjour Guigui.
En effet, je suis allé me renseigner sur cette sombre pratique de trash streaming et j'ai potentiellement une autre proposition de contenu à vous soumettre. Je vous en dis plus juste après.
La chronique de Guigui Pop en public, c'est juste après Duckworth Escapist sur France Inter.
Kidding, but really I'm stressed, so this car get the whip and I'm whipping, I'm whipping, I'm revving my engine, they sending me texts. If I don't reply, then they out of the trip and I'm copping a ticket, I'm getting some distance, blow me some kisses.
Sometimes I feel uncomfortable, uncomfortable, so I gotta go, gotta, gotta go, gotta, gotta go, gotta watch me, watch me, watch me, watch me, come. Some peace. I need it.
to the birds to get some peace.
I need peace.
I might drop 5 bands to get a freak.
I need your freak.
Don't ever pass me the check, cause I'm a tweak.
I'm spending cash.
I'm a pit bull terrier off the leash.
Hold on. Y'all think I'm ripping and rapping. I rap like it's fitness. I'm flexing off. I ain't getting specific. I'm getting some diamonds. If I'm feeling different, I'm busting my teeth. I can't go to the dentist. I'm making decisions with no consequences. Please don't call me shallow. I'm sensitive. Running away with these Benjamins. TSA like,
oh, it's him again. Sometimes I feel uncomfortable, uncomfortable. So I gotta go, gotta, gotta go, gotta, gotta go, gotta. Watch me, watch me, watch me, watch me. Come, come, come with me,
come with me.
Take a ride,
take a ride.
Take a seat,
take a seat.
Your phone, you and me.
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël et toute sa bande.
Et encore des applaudissements pour celui qui vient nous rejoindre en studio. Vous ne rêvez pas, cher public, c'est bien lui. Voici notre majestueux Guigui Pop.
Oui, 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 oui. Oui, salut, c'est Guigui, deux fois Guigui, ainsi que Guy, double Guigui, puis Guy. Quand je dis Guy, vous dites Guy, ok. Guy,
Guy,
comment je m'appelle?
Guigui.
Voilà, bonjour, ok. Je présente Guigui Pop, alias Guigui Pop-Up, spécialiste du web, aficionado de la toile, comme nous l'indiquent les deux dernières lignes de mon historique Firefox, francetravail.fr, et que signifie le mot pop-up? Bon, c'est la journée spéciale santé mentale sur France Inter, à ne pas confondre avec la journée sans émental, pour laquelle on n'aurait peut-être pas fait 24 heures d'antenne. Voilà, je propose qu'on reste pas non plus 24 heures sur cette première vanne, si ça vous va. Et vous savez, avec avoir un bon jeu de mots pour un humoriste, c'est comme opter pour l'osso buco à la cantoche. À un moment donné, on ne peut rien y faire, il faut que ça sorte.
Oh.
Aujourd'hui, on parle donc de trash streaming, des lives où les streamers commettent des actes dégradants sur eux-mêmes ou d'autres personnes, parfois en situation de handicap. Mais attendez, on est sur Internet ou chez le primeur, parce qu'on se fend la poire. Et oui, si vous vous demandiez par hasard si l'homo sapiens n'avait pas pris la mauvaise sortie sans mettre le clignot, eh bien, spoiler alerte, c'est le cas. Et à la manière de Stephen Hawking à la piscine, nous avons malheureusement touché le fond.
Oh.
Allez,
non.
Tous ensemble, on va tenter de se remonter le moral. Quand je dis le monde, vous dites va mal. Le monde,
va mal.
Quand je dis la planète, vous dites va mal. La planète,
va mal.
Quand je dis Cyril, vous dites augmente Guigui, s'il te plaît, le mérite. Cyril, merci, merci. Triste monde où les gens sont prêts à tout pour obtenir de l'argent. Heureusement que chez les humoristes, on a une certaine éthique et qu'on n'est pas prêt à tout pour avoir un rire. C'est faux, bien sûr. Regardez-moi, j'ai mis mon costume de flamant rose et j'ai ramené mon klaxon. Allez, musique. Vous savez, hélas, le maigre salaire de l'humoriste, c'est d'abord les sourires. Et heureusement que Cyril Lacarrière n'est pas gestionnaire paye, sinon j'aurais vraiment pas de quoi mettre de l'emmental dans mon sandwich. Quel professionnel! Il est retombé sur ses pattes, l'Hervé Matou. C'est une chronique ou c'est la place de l'étoile à l'heure de pointe parce que ça klaxonne? Le monde est décidément régi par l'appât du clic, à ne pas confondre avec la place du chic, la boutique de prêt-à-porter à Malakoff, dans laquelle vous avez 10% avec le code SAPÉ comme Jamy. SAPÉ comme Jamy. Mais je suis maître Guy Gims ou quoi, la team? Bon, tout le monde me suit? Allez, j'espère pas jusqu'à chez moi. Merci. Calmez-vous.
Oui.
Merci, merci, calmez-vous. Revenons à nos moutons. Ah non, pas du tout, c'est pas le bon, c'est pas le bon. C'est pas grave. Attendez, bon, c'est pas grave. Ah, voilà, c'est...
Tout se mélange.
C'est du live, c'est parti. Rendez-vous compte qu'à mon époque, on regardait candidement Love Story et maintenant, la mode est au trash streaming. Tout se dégrade, Michael, à l'image de ma densité capillaire qui a laissé place il y a quelques années à un golf 18 trous. Mais j'ai pris la décision de ne pas me laisser abattre et de faire front. Pour ma part, j'ai perdu foi en l'humanité en avril 2022 lorsque l'influenceuse Stéphanie Matteau a décidé de vendre ses proutes. Passionné de business, Michael, je m'étais rendu sur le site. C'est quand même 500 euros la perlouse. Oh bah ça fait réfléchir. On se dit que finalement, l'osso buco n'était peut-être pas une mauvaise idée. Et qu'on est passé à côté d'un sacré pactole. Mais qu'est-ce que c'est bien écrit? Tac, tac, tac. Mais c'est qui? C'est le talent. Bon. J'ose espérer que contrairement à moi, les mecs de cette équipe qui ont allègrement passé la quarantaine et qui ne peuvent plus rien y faire sans médicaments, l'homo sapiens va remonter la barre. Et pourquoi pas opter pour le bienveillant streaming? Mesdames, messieurs, laissez-moi vous présenter le bienveillant streaming. Ici, il ne sera pas question d'humiliation, ni de violence, et encore moins d'argent, puisque comme vous le dites gentiment en commentaire de chaque chronique, et c'est payé avec nos impôts, ça ! Oui, le bienveillant streaming, c'est avant tout faire des compliments à ses collègues. Manon, tu es vraiment la plus belle meuf autour de la table. Vu que t'es seule, quoi. C'est... Quentin, tu as un bel avenir devant toi, puisque tu es en la personne de Mathieu qui est en face de toi. Et Pierre, toi, mon Pierrot, eh ben, quoi de neuf, toi, finalement, parce que C'est vrai que t'as mangé un brookie ce week-end, j'ai vu dans ta story. C'est un cookie, à la fois c'est un brownie, c'est vrai que c'est passionnant. Bon, après ça a l'air chiant comme ça, mais c'est peut-être pas la meilleure personne pour tester. Voilà. En tout cas, j'y crois. Allez, je vous laisse, je dois rendre le costume. Quand je dis merci, vous dites Guigui, merci. Guigui. Merci, ciao.
Merci Guigui Pop, merci au public du studio 104, public du studio 104 qui est en feu, on l'entend. Et merci à vous de nous suivre, même le week-end. À la réalisation, c'était Alicia Vulo. Lundi, on se retrouve en direct, on décryptera le cyberpunk avec la chercheuse Asma Mala et on parlera des 3 ans de Giorgia Meloni au pouvoir en Italie. Alors à lundi 16h et d'ici là, bon week-end à l'écoute d'Inter. Zoom, zoom, zen.